enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Livre de la Genèse, chapitre 13. Et le titre aujourd'hui sera Lot, le sympathisant. Abraham est un personnage remarquable, Lot est à remarquer aussi. Lisons ensemble Genèse 13, les versets 5 à 13. Il est dit là, Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, eh bien, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. Et c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome, précise rédacteur public, étaient méchants et de grands pécheurs devant l'Éternel. Jusque-là, la lecture. Je voudrais voir avec vous Lot, l'histoire d'un homme, vous savez peut-être, selon la Bible, que Lot a bien commencé avec Abraham, mais a très mal fini. Il est le prototype de la tragédie humaine. Il était si près de Dieu et pourtant si loin. C'est l'exemple même de l'homme au cœur partagé. Oh, pas tout mauvais que ça. Il avait de bons côtés aussi, l'ami Lot. Mais finalement, un cœur partagé avec une fin terrible. Question, comment se fait-il qu'un homme déclaré juste par la Bible, dans le texte que nous lirons après, finissent de manière aussi tragique? Et ce sera la question qui sera sous-jacente tout au long des quelques minutes qui viennent. Voyez-vous, on veut tous être comme Abraham, mais on peut tous aussi ressembler à Lot. Je voudrais que nous puissions tous finir comme Abraham et surtout ne pas ressembler à Lot. Alors Lot avait quelques symptômes. Par exemple, premier symptôme, Lot était un sympathisant mais pas un disciple. Deux expressions caractérisent son fonctionnement. Dans Genèse 12, verset 4, il est dit « Et Lot partit avec Abraham ». Remarquez, Dieu n'avait jamais appelé Lot directement. Mais Lot est parti avec Abraham. Il a fait comme son oncle, allez, une belle aventure à vivre. Et puis là, dans Genèse 13, verset 1, il est dit « Abraham remonta de l'Égypte et Lot avec lui ». Il était un conformiste, il faisait comme son oncle, mais n'était pas comme son oncle. C'est comme un croyant, mais ce n'est pas un croyant. C'est un sympathisant. Et il y a une grande différence entre être un sympathisant et être un disciple de Jésus. Il y a une grande différence. En quoi? Tout d'abord, eh bien, il marche avec Abraham sans jamais vraiment marcher avec Dieu. Il est au bénéfice de la foi de son oncle sans pour autant jamais développer vraiment une relation avec Dieu. À aucun moment vous ne trouvez Lot en train de bâtir un autel. Il surfe sur les effets de la foi d'un proche, mais ne connaît pas Dieu. On peut naître dans une famille chrétienne, vivre des bénédictions des parents chrétiens. On peut même être dans une cellule chrétienne et vivre de la bénédiction de frères et sœurs qui marchent droit avec Dieu parce qu'ils vont prier pour vous. Mais Dieu vous appelle et m'appelle à marcher avec lui, seul à seul aussi. Le grand tort de Lot a été de marcher avec seulement, au lieu de marcher comme Abraham et de marcher avec Dieu. Il a marché avec Abraham, mais pas forcément avec Dieu. Et pourtant, Dieu l'a aimé. Et c'est marqué à plusieurs reprises. Deuxièmement, il fonde ses choix sur ce qu'il voit et non pas sur ce qu'il croit. La tragédie de Lot aurait pu être évitée si Lot n'avait pas fait des choix aussi malheureux que celui que nous venons de lire dans Genèse 13, versets 11 à 13. À un moment donné, eh bien, il y a là, entre les bergers d'Abraham et de Lot, une querelle au sujet des pâturages. Pas assez de pâturages, les brebis n'avaient pas assez à manger, ne donnaient pas assez de lait, ne donnaient pas assez de petits, pas assez de, etc., de la laine, etc. Et du coup, le père Abraham lui dit, écoute, on est frangins, on est dans la même famille, allez, pas de bagarre, on va se séparer en paix, à l'amiable, si tu vas à droite, je vais à gauche, si tu vas à gauche, je vais à droite. Et il est dit que Lot leva les yeux. Au lieu de se dire dans son cœur, Abraham est mon oncle, je vais lui donner la priorité du choix. Je vais lui renvoyer l'ascenseur. Il se dit, oh, quelle aubaine! Il leva les yeux, il vit les plaines du Jourdain jusqu'à Sodome, et elles étaient bien vertes et fertiles. Et il s'est dit, là, il y a du business à faire. Et il a choisi de s'approcher de Sodome et de Gomorre. Il a vu d'abord et seulement l'argent, le gain, le bénéfice, la prospérité matérielle qui allait en découler sans s'apercevoir ou sans peut-être vouloir s'apercevoir qu'il y avait aussi un danger potentiel que de se rapprocher de trop d'une génération, d'une ville qui apparemment avait des mœurs perverses. En berger avisé, il a choisi l'avantage matériel. Pour chacune de nos vies, viennent des moments où elle nous impose des choix. Et ces choix vont reposer sur des attitudes fondamentales. Abraham a dit, va où tu veux, j'irai à l'opposé. Lot, lui, il a choisi pour lui. Intégrité ou fraude? Foi ou opportunisme? Lot était un opportuniste. Une bonne opportunité, allez, on y va! Sans se rendre compte qu'il y avait peut-être un danger bien plus grave qui était là. Troisième caractéristique d'un suiveur, d'un sympathisant, c'est qu'il s'est accommodé au monde. Les textes, si vous les lisez en entier, Genèse 19, il est dit que Lot se faisait du mouron parce qu'il voyait tout le mal qui se passait à Sodome et Gomorre. Oui, il était conscient, de la gravité des choses. À tel point que lorsqu'à un moment donné, deux anges viennent, suite à la prière d'Abraham, vouloir le sauver de Sodome et de Gomorre, voilà que toute la population masculine de la ville de Sodome frappe à la porte de Lot et lui dit « Amène-nous ces bonhommes, on veut coucher avec eux. » Et lui, il dit « Non, faites pas ça !» Il se rend compte de la gravité de l'acte. Mais voyez-vous, il s'est adapté, il s'est accommodé. À tel point qu'il a pu siéger avec les anciens de la ville aux portes de la ville, dit Genèse chapitre 19, verset 1. Il s'est accommodé au péché. Il n'a plus eu aucun impact sur la ville. Non, l'autre n'était pas une brute insensible. Et donc, son témoignage à lui nous concerne nous aussi. Pour diverses raisons, nous pouvons nous aussi devenir des lots. De l'autre, il est dit, écoutez bien, dans 2 Pierre 2, verset 7, que Lot était un homme juste, affligé par la conduite immorale de ses contemporains sans scrupules. Lot était l'homme aux demi-mesures et au cœur partagé. Deuxième point, je voudrais vous laisser les quelques raisons pour lesquelles Lot a vécu une fin tragique. Tout d'abord, il n'a jamais bâti d'hôtel, il n'a jamais prié. Dans les grandes décisions de sa vie, on ne le voit jamais prier. Deuxièmement, la richesse est devenue son Dieu. Genèse 13, verset 10, il n'a vu que la belle plaine du Jourdain arrosée partout. Troisièmement, il a fait des choix égoïstes. Dans Genèse 13, verset 11, il est dit que Lot choisit pour lui. Quatrièmement, il a refusé d'écouter les avertissements. Au bout d'un moment, au bout de quelques années à Sodome et Gomorre, voilà que La guerre éclate entre le roi de Sodome et de Gomorre, et un autre roi, je ne sais plus lequel. En tout cas, il y a une guerre. Et Lot et la ville de Sodome est emmenée captive. Il perd tout. C'est bien, et tout est ramené dans une autre ville. Abraham en apprend la nouvelle, il charge de ses hommes, et il va attaquer le roi, et il délivre Lot, et sa femme, et ses filles, et son bétail, et tutti quanti. Mais Lot, au lieu de se dire, waouh, échappée belle, on va arrêter les frais, il y retourne. Au lieu de partir avec Abraham et dire, écoute Abraham, je me suis vraiment trompé, je te demande pardon, pouvons-nous faire alliance, n'importe. Non, il retourne à Sodome et Gomorre. Il n'écoute pas les avertissements. Cinquièmement, il trahit ses convictions. Écoutez bien comment il traite les gens de Sodome et de Gomorre quand ils viennent lui demander d'envoyer ses deux hommes afin qu'ils puissent coucher avec eux. Il dit, mes frères, ne faites pas ça. C'était devenu ses frères. Et à ses soi-disant frères, vous savez ce qu'il a fait après? Il leur a livré en pâture ses deux propres filles. Il leur a dit, ne leur faites rien à ces hommes-là. Voyez, j'ai deux filles vierges qui n'ont jamais connu d'homme. Je vous les donne afin que vous puissiez faire avec elles ce que vous voudrez. Il trahit ses convictions. Septièmement, il était donc prêt à sacrifier ses enfants pour sauver sa peau. Huitièmement, il a tardé à obéir. Genèse 19, verset 16. Les anges sont là et lui disent, mais dépêche-toi, il faut qu'on s'en aille. À un moment donné, les anges le prennent par le colbac, il est dit, ils l'ont pris par la main, lui, sa femme et ses deux filles, pour le sortir de la ville afin de le sauver. Dieu voulait vraiment le sauver. Et enfin, il est insensible aux besoins de sa famille, autant au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit, et il finit à la dérive. Si vous le lisez Genèse 19, c'est sordide. Il part à la ville de Tsoar. La pluie de soufre et de feu arrive, sa femme regarde en arrière, elle est changée en statue de sel, et finalement, il quitte Tsoar, va plus loin sur la montagne, et là, reste seul avec ses deux filles, qui étaient en âge de se marier. Au lieu de considérer les besoins de ses enfants, il reste là-bas et il les maintient sous pression, près de lui. Et finalement, l'aîné dit à la jeune, écoute, il n'y a pas d'homme dans le coin, on va vous donner à boire à mon père, à notre père, on va le rendre ivre, on va coucher avec lui, et puis on aura ainsi une descendance. Et quand vous lisez ça, la première fois que je l'ai lu, j'ai dit, c'est quoi ce bouquin-là? Mais voyez-vous, j'aime ce livre parce qu'il est tellement proche de nous. Bien-aimé, et dire que cet homme avait vécu auprès d'un homme de Dieu, à proximité de Dieu, a bénéficié de sa bénédiction et a dû son salut à son intercession, dans Genèse 19, verset 29, il est dit, Dieu sauva Lot et sa famille à cause d'Abraham. Et de par ses choix charnels, basés sur de mauvaises priorités et son refus d'écouter les avertissements, Lot s'est amassé un trésor de malheurs qui ont frappé en un seul jour. Avec des conséquences séculaires, parce que figurez-vous que les deux enfants, les deux fils, les deux petits-fils de Lot, issus de l'inceste, vont devenir les Ammonites et les Moabites, qui vont être des ennemis héréditaires d'Israël. Ce que j'ai envie de dire par là aujourd'hui, bien-aimés, c'est que nos choix ont des conséquences. Le péché a des conséquences. Et le drame le plus grave, c'est lorsque nous nous acclimatons et que nous nous habituons et que nous pensons que ce n'est pas si grave que ça. J'aimerais te dire que tôt ou tard, le péché, c'est comme un boomerang, il te revient en pleine figure. Et le prix est très élevé. Ne pensez pas qu'on puisse jouer avec le péché comme ça. C'est toujours un prix exorbitant. En un jour, il a tout perdu, sa femme, ses troupeaux, sa prospérité et même son âme. Oui, Dieu l'avait sauvé de la ville de Sodome, du cœur de Sodome. Mais le cœur de Sodome était resté dans le cœur de Lot et de ses deux filles. Pourquoi je prêche aussi? Dieu, je vais vous dire pourquoi. Christian confirmera, Bertrand aussi. Chaque été, nous avons nos loft stories. Et ça finit par des drames, ça finit par des divorces des fois. Ça finit par des enfants au cœur brisé. Ça finit toujours par un drame. Le péché ne paye pas. Le péché est toujours à fin tragique. Et je veux vous exhorter et nous réveiller, ou plutôt nous garder éveillés, afin que dans les semaines qui viennent, quand nous irons en congé, ce que je vous souhaite de tout cœur, que vous puissiez vous reposer, vous détendre, la corde de l'arc de votre âme, mais que vous y alliez avec une vigilance sainte. Oui, détendez-vous. Oui, faites-vous du bien. Reposez-vous. Mais ne vous laissez pas aller. Lot s'est laissé aller. Et il a payé cher. Faites-nous du bien cet été. N'achetez ni cadeaux, ni rien du tout pour nous. Mais revenez tous ensemble en bonne santé spirituelle. Et mon cœur de pasteur sera très, très, très heureux. Amen. Troisième point. La Bible nous encourage à gagner de la profondeur. Vous avez des sympathisants, il y en avait partout. Moïse avait ses sympathisants. Saviez-vous cela? Dans Exode 12, verset 38, je lis Exode 12, verset 38. Une foule de gens d'origines diverses partirent en même temps qu'eux. Les moutons, chèvres et bœufs formaient des troupeaux considérables. Bien-aimés, ces gens n'étaient pas du peuple de Dieu, mais ils sont partis avec. Ils ont vu là une opportunité de se soustraire eux aussi à l'esclavage de Pharaon. Mais ils n'avaient pas d'appel sur leur vie. Et ces gens, ils les ont laissés partir avec eux, les Israéliens, ou Israélites, comme vous voudrez. Et finalement, ils vont être pour eux une pierre d'achoppement, l'entraînant le peuple dans le murmure, l'insatisfaction, le manque de foi, voire la révolte. Dans Nombre 11, verset 4, écoutez ce qui est marqué. Nombre 11, verset 4. Un autre jour, les étrangers d'origine diverse qui se trouvaient parmi les Israélites furent obsédés par l'envie de manger de la viande. Les Israélites eux-mêmes recommencèrent à se plaindre en disant « Si seulement nous avions de la viande à manger !» Des sympathisants. Jésus avait ses sympathisants, saviez-vous cela? À un moment donné, une foule de gens le suivent. Une foule le suit. Dans l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 23, il est dit « Pendant que Jésus était à Jérusalem, Jean 2, 23, pendant que Jésus était à Jérusalem, au moment de la fête de Pâques, beaucoup crurent en lui, en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais, est-il marqué, mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous très bien. » À un moment donné, la foule le suit. Et Jésus va se retourner et dire, mais celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix chaque jour, qu'il s'en charge tous les jours et qu'il me suive. Et s'il aime son père, sa mère, son fils, sa fille et même sa propre vie plus que moi, il n'est pas digne de moi. À partir de là, un tas de gens ont dit, ah non, c'est aussi comme ça. Non, écoute, passe ton chemin. On veut bien du Jésus des miracles, mais pas du Jésus de la croix. À un moment donné, il leur dira aux Juifs, mais si vous ne mangez pas mon corps et si vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas être avec moi. Vous n'êtes pas de moi. Et lui, ils vont dire, mais ton langage, là, tes propos sont trop durs. Qui peut les accepter? C'est pas possible. Et un tas de gens ont fait marche arrière. Jean 6, versets 63 à 71. À tel point qu'à un moment donné, Jésus regarde ses disciples et leur dit, mais vous voulez vous aussi me quitter? Et c'est là que Pierre dira cette belle déclaration, mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Mais Jésus avait ses sympathisants. Peut-être le plus rusé, le plus futé, le moins, le plus caché, était Judas. Judas aussi était un sympathisant. Peut-être le pire de tous. Tellement proche de Jésus. Il avait entendu les plus belles prédications qu'un homme eût pu entendre. Il avait vu les plus beaux miracles. Il a assisté à la résurrection de Lazare. Il a vu le fils de la veuve de Naïd revenir à la vie. Il a écouté le sermon sur la montagne. Il a lui-même chassé des démons. Il a prié pour les malades. Les malades étaient guéris. Et pourtant, tout au fond de lui, Judas s'avère n'être qu'un sympathisant comme Lot. Parce qu'à un moment donné, quand il s'agit de flouze, ce que Dieu cherche, ce ne sont pas des sympathisants seulement, ce sont des hommes et des femmes qui vraiment veulent marcher avec lui. Voilà la raison pour laquelle la Bible nous encourage à gagner de la profondeur. Matthieu 7, versets 21 à 29, où nous sommes encouragés à creuser des fondations et à nous fonder sur le rocher des siècles qui est Jésus et Jésus seul. Parce que la tempête va aussi battre ta maison en tant que croyant. La maladie, le chômage, même les crises conjugales, frappe aussi la maison du croyant. Mais parce qu'il est fondé sur le rocher, la maison tient le choc. Matthieu 13, versets 5 à 6. Une partie de la semence est tombée dans le terrain rocailleux. En apparence, tout va bien. Et la semence prend racine courtement. Elle monte, elle lève, elle amène même du fruit. Mais dès qu'il y a le soleil, la persécution, dès qu'il y a une bonne difficulté qui arrive, tous dessèchent. Tous dessèchent. Vous savez pourquoi ? Parce que la racine n'arrive pas à descendre. En dessous de la surface du cœur, il y a un cœur beaucoup plus dur. Il y a une résistance intérieure. Et quand Jésus dit « Prends ta croix », oh non, ce n'est pas aujourd'hui, demain peut-être. Bien-aimés, je vous encourage. Et je le redis, l'été est la saison favorable pour passer du disciple au sympathisant. Les conditions climatiques aidant, le stress étant enlevé, la routine quotidienne n'étant pas là. Tout à coup, on se trouve au bord d'une plage. Et comme on n'a rien à faire, on n'est pas stressé par le patron, on peut commencer à promener ses regards, et puis on gigote dans les pensées, et finalement, après avoir consommé là-dedans, on va aller plus loin. 2 Pierre 3, verset 17 dit, « Vous donc, bien-aimés, » et Pierre parle à l'Église, il dit, « Vous donc, bien-aimés, E-S et E-E-S, ça concerne tous les genres, « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, » mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'étant entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Ça veut donc dire en clair qu'on peut être solidement debout aujourd'hui. Et là, au culte, c'est assez simple. Hein, on est tous ensemble dans une bonne ambiance, un bon groupe. On est tous en phase les uns avec les autres. Mais quand on ressort d'ici, quand on repart dans la vie de tous les jours, c'est là que, de peur qu'étant entraînés, happés par l'environnement, nous ne venions à déchoir de notre fermeté. Voyez-vous, dans le psaume 1, verset 4, voilà ce qui est marqué. Il y en a deux hommes là-dedans qui sont décrits, deux types de croyants. Il est marqué là, il n'est pas ainsi des méchants. Et laissez-moi vous dire que les méchants, ce n'est pas forcément les impies. Ceux qui se livrent dans le péché, qui s'y vautrent, ou qui le manifestent publiquement à la Gay Pride. Non, le méchant, ça peut être un Judas. Le méchant, ça peut être un Démas, un collaborateur de Paul, qui avait quitté Paul par amour pour le siècle présent, est-il marqué ? Il est marqué, là, il n'en est pas ainsi, les méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe, comme Lot. Pendant un temps, il était là, et tout à coup, plus là, fini, disparu. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. À un moment donné, le croyant qui se met à pécher gravement, il ne supporte plus l'assemblée. Il ne viendra plus à l'église parce qu'il ne se sent pas à l'aise. Il sait très bien qu'ici, eh bien, il y a une présence de Dieu qui exige la sainteté. Car l'Éternel connaît la voix des justes et la voix des pécheurs. Écoute bien, frère, sœur. La voix des pécheurs mène à la ruine. Exemple, Lot, Judas, Démas. Par ses choix, Lot a gâché son destin et celui de sa femme, mais aussi celui de ses descendants. C'est une chose que d'avoir de la sympathie pour Jésus, c'en est une autre que de le suivre, que de marcher avec lui et de souffrir pour lui. Peut-être le plus difficile, c'est de mourir à soi. Je voudrais finir en note positive. Quatrième point. Du sympathisant aux disciples. Peut-être tu es là et tu sens qu'intérieurement tu vacilles. J'aimerais te donner quelques pistes pour t'aider à redevenir ou à devenir un disciple aguerri, affermi. Amen. Observons Abraham. Il est resté ferme. Pourquoi ? Parce qu'il avait de la force et sa force était le résultat de sa relation avec Dieu. C'était un bâtisseur d'hôtel. Autrement dit, il cultivait régulièrement sa relation avec Dieu. C'était un homme d'intercession aussi, un homme d'affection. Il intercédait. Même pour Sodome et Gomorre. Deuxièmement, il faisait confiance en Dieu et en sa bonté. Il était remonté d'Égypte, il a intercédé pour Sodome. Il se disait, Seigneur, je n'aime pas mieux qu'eux. J'ai aussi été comme ça avec ma femme. Et puis, hein, bon, d'accord, tu m'en as sorti. Alors je veux croire que pour Sodome et Gomorre, tu as aussi encore de l'affection et tu veux les sauver. Troisième point. Sa distance face au monde. Quand je dis au monde, ce n'est pas se retirer du monde dans une vie monacale, loin dans les montagnes, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais se retirer des principes de fonctionnement du monde. J'aimerais vous dire, il y a des émissions, il y a des films, il y a des sites sur Internet à ne pas aller visiter. Si vous y allez, vous cultivez dans votre pensée un principe de fonctionnement et tôt ou tard, vous risquez d'en manger les fruits. Psaume 1, verset 1, il est dit « Heureux l'homme ou la femme qui ne marche pas selon les méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui termine ainsi, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Lot était assis avec les anciens de la ville de Sodome. C'est eux qui gouvernaient, il était assis avec eux. Apparemment, il était tellement comme eux qu'ils l'ont accepté comme tel. Sa distance face au monde. Et finalement, peut-être ce qu'il a sauvé aussi, c'est son amour pour les siens. Il avait une réelle affection pour Lot. Excusez-moi, il aurait pu se dire, Lot a choisi, maintenant il n'a qu'à payer. Hein? Mais quand les rois l'avaient capturé, tout de suite, il va armer 318 de ses meilleurs hommes et il part à la charge. Il va le chercher. Il a aimé Lot. Il a aussi aimé les perdus. Son intercession en est la preuve. Je termine et je conclue. Abraham, le père des croyants, a obtenu les choses promises. Lot, le sympathisant, était si près du croyant et au bénéfice de sa foi, mais n'a pas eu de promesse de Dieu et finalement n'a pas eu d'appui de sa part, encore que. Les fins sont très différentes. Abraham finit comme un ami de Dieu. Jacques 2, il est dit qu'Abraham était l'ami de Dieu. Moi, je me dis, un jour, à la fin de ma vie, si je viens au ciel, oh, je voudrais que Jésus me dise, Claude, mon ami, viens. Et pas qu'il me dise, retire-toi, méchant. Va dans les ténèbres. Je ne sais pas comment c'est pour vous. Si vous préférez le mot ami pour vous, dites amen, quoi. 1 Corinthiens 10, verset 11 dit, ces malheurs leur arrivèrent pour servir d'exemple à d'autres. Et qui sont ces autres? Écoutez bien qui ils sont. Ils ont été mis par écrit pour nous avertir, car nous vivons en un temps proche de la fin. Allez, je résume le tout en quatre pensées. 1. Ne te contente pas de marcher avec le peuple de Dieu. Mets-toi à marcher avec Dieu tout seul. Ne te contente pas de penser « Ah, mes parents sont croyants, ils prient pour moi, ça va tout seul. » Non, non, commence-toi par marcher avec Dieu. De peur que Dieu aimait aussi Lot. Il aurait aussi souhaité que Lot ait avec lui une relation de cœur à cœur. Développe ta relation avec lui. Deuxième point, même si tu as bien démarré, enracine-toi, gagne de la profondeur. Dépasse les premières résistances. Et s'il le faut, arrache les pierres de ton cœur. Permet que réellement la parole de Dieu prenne racine en toi, qu'elle rentre là-dedans. Heureux l'homme qui médite sa parole jour et nuit. Prenez-vous le temps de manger des gros morceaux de gâteau de la parole de Dieu. Amen. Allez-y, vous pouvez en abuser autant que vous voulez, il n'y aura jamais d'indigestion. Troisième point, fonde tes choix stratégiques, je parle, hein, sur ce que tu crois et non pas ce que tu vois. Reste à distance du monde. Je n'ai pas dit que tu dois ne plus voir personne. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais il y a des moments donnés, il y a des limites à marquer. Quatrième point, ne t'accommode pas à l'environnement du péché. Rappelle-toi que le péché coûte toujours cher, même s'il est petit. Au départ, c'est toujours petit. C'est un petit coup de fil, c'est un petit sourire, c'est un petit mail. C'est une petite fleur qu'on offre à son collègue ou à sa collègue. C'est toujours petit au départ. Et puis ça grossit. Oh, pas forcément visiblement, mais là-dedans et là-dedans, ça grossit à la fin. Quand le diable n'arrive pas à te chuter du jour au lendemain, vous savez comment il fait? Il fait un travail d'usure. Et il prend son temps. Oui, mon petit, continue de prêcher. Oui, mon petit, continue de faire la louange. Oui, mon petit, continue de témoigner. Mais je t'aurai à l'usure. Samson, il l'a eu à l'usure. Oui, des fois, c'est vrai que ça arrive, qu'on est comme ça en toboggan, et puis il suffit d'une passe bousculade pour qu'on dévale la pente, mais pas toujours. Non, non, non. Quand les gens chutent dans l'adultère, j'aimerais vous dire, c'est toujours d'abord petit. Et à la fin, quand tu vas attraper la mayonnaise, on te prend pour un plaisantin. Ne t'accommode pas au péché. L'Église est tellement accommodée au péché. Aujourd'hui, quand l'Église de France veut se lever pour dire ça, c'est pas bien, mais on lui rit au nez. Cinquième point peut-être, je termine par là, et surtout, ne pense pas que ça n'arrive qu'aux autres. Ça, c'est le plus grand piège. Que celui qui est debout prenne garde de ne tomber. Es-tu debout, mon frère? Réjouis-toi, mais veille à rester debout. Et vois-tu un autre qui a chuté? Aie compassion de lui, ne le juge pas trop vite, parce que ça pourrait arriver à toi aussi. Aie compassion de lui, prie pour lui ou pour elle. Sois conscient que ce genre de choses n'arrive pas qu'aux autres. Enfin, je voulais terminer par le psaume 1. On pourrait le lire ensemble, parce que ça résume mon message. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe, léger. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.